Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
On a prouvé avec les experts qu'Adama Traoré était bien mort asphyxié du plaquage ventral. Les gendarmes ne sont toujours pas mis en examen. La France est un système répressif et autoritaire où la violence policière est impunie.
30 minutes d'info choisie
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Une organisation comme le collectif contre l'islamophobie en France qui obtient des décisions de justice, c'est extrêmement choquant que le ministre de l'Intérieur considère celle-ci comme une, si je le cite, ennemie de la République. On y voit là un opportunisme et un autoritarisme exacerbé de la part du ministre de l'Intérieur.
Bonjour, vous êtes bien sur les infos choisies 2030 et nous sommes le 15 octobre 2021. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un édito ou une introduction un peu construite, mais plutôt quelques ficelles qu'on a envie de relever, même si on ne les tire pas complètement aujourd'hui, par rapport un peu à tout ce qui se passe dans les grands médias, aux infos qui fusent et qui font que ça va très très vite et que nous, en tout cas, c'est des ficelles qu'on avait envie de relever aujourd'hui. Parce que c'est des endroits qu'on a envie de creuser. Et puis, dans ce mouvement qu'on essaye de faire ici aux Infos Choisies, qui est un peu entre garder l'œil et les oreilles tendues dans tout ce qui est la grande médiatisation du monde ordinaire ou du grand dehors ou du grand public, comme on veut l'appeler, et aussi tout ce qui est produit, diffusé, fabriqué, plus dans des réseaux de médias libres. Et du coup, vous avez certainement, comme nous, était accablé face aux nouvelles qui viennent sur, à propos de la culture du viol et de l'institutionnalisation de la culture du viol dans l'église catho, là chez les cathos. Bon, c'était des choses qu'on savait déjà, et en particulier grâce aux témoignages, aux mobilisations et aux luttes des personnes qui en ont été victimes depuis des siècles et des siècles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une formalisation différente. Ça apparaît dans les médias différemment aussi parce qu'il y a des procédures en cours, en tout cas des formes de reconnaissance qui vont peut-être être établies d'une autre manière, sans quoi trop que cela vienne réformer ou assainir ce type de système, comme certains voudraient nous faire croire. Eh bien, nous, la ficelle qu'on a envie de tirer, c'est celle qui fait le lien entre ce qui se passe dans l'église catho et puis la culture du viol en général dans nos sociétés, sa connivence étroite avec le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils existent ensemble, l'un n'existe pas sans l'autre, et plusieurs grosses médiatisations en ont été la preuve dans cette dernière année encore, comme par exemple à l'université, dans le monde des médias mainstream, l'industrie du cinéma, etc., ou dans les pouvoirs politiques, etc. En tout cas, nous, on veut être attentive et suivre à voir est-ce que toutes ces médiatisations et ces formalisations-là servent les luttes qui sont pour nous beaucoup plus déterminantes et déterminées, en particulier les luttes féministes qui ne lâchent pas l'affaire et qui disent tout ça haut et fort depuis fort longtemps. Il y a une autre ficelle qu'on a envie de tirer aujourd'hui et qu'on espère creuser dans les prochaines éditions, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, la fin de gratuité des tests. En France, bien sûr, outil de pression pour pousser à la vaccination, comme c'est très fortement dit dans plusieurs médias, mais aussi pour ceux qui nous concernent, vraiment, l'annonce un peu d'un désastre dans les pratiques de réduction des risques, qui la crise du Covid nous a déjà démontré comment ces pratiques étaient vraiment presque inexistantes dans la société, que ce soit en termes de comment on pense à les questions de santé publique et comment chacune et chacun en agit et on se sent capable, en tout cas, ou en mesure de déployer des outils de réduction des risques de manière consciente, et etc. Là où tout a été mis sous une forme d'interdiction ou injonction, eh ben, petit à petit, le test commençait à devenir une pratique pour pas mal de monde. Et là, la fin de la gratuité, c'est vraiment le début d'un désastre pour plusieurs aspects. Il y en a aussi parmi nous qui pensent que, même si la médiatisation nous dit que les chiffres descendent, et encore une fois, bah, c'est drôle, cette étrange de manière de faire comme si le Covid n'existait plus, alors que bon, il suffirait de détourner un peu les yeux de notre nombril et suivre tout ce qui se passe et s'est passé depuis plusieurs semaines en Guadeloupe ou dans plein d'autres endroits du monde. En tout cas, pour ce qui est de ici autour de nous, apparemment les chiffres descendent et on nous bassine que ça serait que à cause du vaccin, alors qu'on est pas mal de gens à penser que l'augmentation de la pratique du test a certainement aussi eu un impact parce que ça a permis de détecter beaucoup plus de cas asymptomatiques ou avec très peu de symptômes et donc à plein de moments aussi d'empêcher une circulation du virus. L'autre sonnette qui s'illumine chez nous, la sonnette d'alarme, c'est aussi celle sur le fait que, sans vouloir faire ni l'éloge des politiques publiques mises en place par l'autre, De Gaulle, ou l'éloge de la France par rapport au fait que le test était gratuit, tout comme plein d'autres dépistages, eh ben, on se demande bien si cette fin de la gratuité du test de dépistage Covid n'est pas la porte ouverte pour justement remettre en cause une des rares choses qui permettent quand même au plus grand nombre d'accéder à beaucoup de dépistages en France. Bon, on ne s'attarde pas sur toutes ces questions-là aujourd'hui. On avait quand même envie de finir avec une presque bonne nouvelle. La semaine passée, on vous avait parlé des luttes et des mobilisations du contre-semis Afrique-France qui était organisé à Montpellier et les arrestations qu'il y avait eu à la gare de Montpellier à l'arrivée de plusieurs militantes et militants. Il y avait 8 personnes arrêtées, 2 étaient parties directement en CRA et il y avait au moins 5 au QTF qui avaient été données. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que les 2 personnes qui étaient retenues en CRA hier, elles en sont sorties. Mais par contre, la lutte et la mobilisation continuent contre les OQTF et aussi qui sont accompagnées par les interdictions de retour sur le territoire français. Et voilà, et puis on enchaîne avec le reste des infos et voilà.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Aujourd'hui, vendredi 15 octobre, les tests de dépistage du Covid deviennent payants. 44 euros le PCR, 44 euros, 22 l'antigénique, 22... je vais prendre un antigénique plutôt. Mais bon, la vaccination n'est pas obligatoire, hein. D'ailleurs, mercredi, en Conseil des ministres, ils examinaient la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. En lisant l'article de Mediapart, passe sanitaire, le poison de la banalisation des états d'exception, je vois que même le Conseil d'État rappelle que la France, sur les 6 dernières années, en aura passé la moitié en état d'urgence. Et de se demander si ces états d'exception ne deviennent pas un mode de gouvernement banalisé. Ah, grosse piste, comme dirait Tatastus. Ou alors, bah on le fait loi et on renomme, comme la loi SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, du 30 octobre 2017. Cette loi où les perquis deviennent des visites domiciliaires. Ni vu ni connu, je t'embrouille, tchac tchac, plus de problème. Comment on va faire pour la chanson ?
Perquis comme jamais, perquis comme jamais, perquis comme jamais, perquis comme jamais.
Merci, on adore votre style, les faiseurs de loi.
C'est l'état d'urgence.
juillet 2022 alors.
Le sport médiatisé, un boys club décomplexé. L'industrie pornographique, un boys club soporifique. L'armée de terre et l'armée de l'air et l'armée de mer. Et la police et les guerres, les institutions, la justice des pères. Toute l'histoire des religions sont les boys clubs des enfers. Mort au boys club! Mort au boys club! Mort au boys club! Charmant, marrant, mais les boys clubs sunomis sont comme la bière à 9 degrés, c'est-à-dire qu'ils m'ont vite saoulé. J'ai honte de la seule femme de nos listes électorales, la seule femelle vautour qui a su accéder au second tour. Ce n'est pas un secret que la dictature mondiale est un boys club phénoménal et le sort s'acharne. Privé de nourriture mentale, tue ta femme, donc tu tues ta femme. Faudrait pas que les autres te traitent de faible pédale. Des grands boulevards aux plus minuscules ruelles, les boys clubs vont trembler à la venue des rebelles. Il est mort le temps de l'immunité permanente. Je déclare la chasse ouverte à ces mœurs débilitantes.
C'était Boys Club de Luxure.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Électricité et néolibéralisme. Alors, je ne suis pas économiste, mais j'ai essayé de comprendre à quoi était due l'explosion du prix de l'électricité en Europe depuis le début de l'année 2021, et surtout depuis la rentrée scolaire. Un des facteurs est l'augmentation du prix du gaz en 2021, une production qui n'a cessé de prendre de l'importance au fur et à mesure de la transition écologique. Pourquoi cette augmentation? Un hiver plus long et plus froid que prévu, un été sans vent en Europe du Nord, qui n'a pas permis aux éoliennes de fonctionner, le tout dans un contexte de reprise économique brutale et désordonnée suite au Covid, où l'offre ne suit pas la demande. Tout s'est additionné en quelques mois, et les prix du gaz naturel, qui étaient à 18,8 euros le mégawattheure en janvier, dépassent les 90 euros aujourd'hui. Et, important, sauf la Norvège, l'Europe ne produit pas de gaz et l'importe de l'Algérie, du Qatar, de la Libye et majoritairement de la Russie. Donc la spéculation se déchaîne. J'ai envie de revenir plus généralement à l'électricité et pas seulement au gaz. Donc vous pouvez trouver plus de détails sur l'augmentation du prix du gaz dans l'article de Mediapart intitulé « Marché gazier, la tempête que personne n'avait vu venir ». Sauf que si, cette tempête s'annonce depuis 2002. Il y a 20 ans, la Commission européenne a mis en place l'Europe de l'énergie, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence de marché, comme pour l'ouverture à la concurrence des télécoms, qui a eu pour effet de faire baisser les tarifs, mais cela s'explique aussi par l'essor de la téléphonie mobile et de nouvelles technologies qui ont boosté le marché. Pour l'électricité, c'est plus compliqué. Les monopoles nationaux s'expliquaient par la grandeur des infrastructures et leur lourdeur dans la gestion. L'électricité ne peut pas être stockée. Et le courant alternatif doit impérativement être stable. La sécurité du réseau face à la dangerosité et la nécessité de fournir à tout le monde, même pendant des vagues de grand froid, fait que c'est conséquent. Pourtant, Bruxelles s'est acharnée à tout soumettre au marché depuis 20 ans. L'Europe de l'énergie était censée faire baisser les prix. Sauf que ça n'a jamais fonctionné. Depuis sa mise en œuvre, les prix de l'électricité ont connu une hausse constante et continue dans toute l'Europe, jusqu'à la flambée de 2021. Alors, en termes économistes, pourquoi cette augmentation? Tout d'abord, la financiarisation du secteur, ou aussi appelée la déréglementation du marché, qui amène à l'instabilité des prix afin de permettre à des traders de spéculer en bourse et à des entreprises privées de prendre des parts et s'installer sur le marché. Les systèmes électriques nationaux maintenaient le prix du kilowattheure proche du coût de production moyen, ce qui s'appelle, je crois, l'économie d'échelle. Sauf que la perte de cette réalité-là a eu pour conséquence l'instabilité du prix et l'inflation à chaque catastrophe. C'est ce qui s'est passé cet été lorsque les fournisseurs d'électricité de l'Europe du Nord ont été dans l'incapacité d'apporter les volumes d'électricité attendus, faute de vent. Donc dans la précipitation, ceux-ci se sont rabattus sur les centrales à gaz pour prendre le relais, alors que le marché gazier était déjà en surchauffe, et les fournisseurs privés ont alors accepté de passer des contrats à 170, voire 200 euros le mégawattheure, alors qu'il tournait autour de 30 euros en 2002. Ces ajustements heure par heure sur les marchés boursiers européens sont devenus la référence, ce qui engendre une instabilité et qui est en train de trop déstabiliser le reste de l'économie. Pourtant, en mars de cette année, la Commission européenne a continué d'imposer la déréglementation. Les prix fluctuants de marché se répercutent en totalité sur les marchés de détail, jusqu'aux consommateurs, donc, dans tous les pays de la zone euro, afin que la concurrence soit réellement parfaite. En gros, chaque catastrophe environnementale qui peut jouer sur la demande d'électricité se répercute directement sur le prix de nos factures. En janvier au Texas, les habitantes, à la suite d'une vague de froid sans précédent, se sont retrouvés à devoir payer des factures délirantes parce que indexées sur le prix du marché. Les consommateurs se retrouvent à la merci de prix aléatoires, alors que leur salaire ne l'est pas. Donc pour conclure, les prix du gaz et de l'électricité flambent actuellement dans toute l'Europe et se diffusent dans l'ensemble des économies, faisant ressurgir des niveaux d'inflation inconnus depuis deux décennies. Ils ont quasiment quadruplé en 9 mois les prix. Parce que là, on parle de nos factures de particuliers, mais il y a aussi toutes les entreprises qui ont besoin d'électricité pour produire leurs denrées. Toutes les hausses d'électricité qui adviennent actuellement sont liées à la façon dont a été bâtie cette Europe de l'énergie. À quand les mutuelles solidaires pour ne plus payer nos factures d'électricité? Pour plus d'infos, puisque je ne suis pas économiste, vous pouvez retrouver l'article de Mediapart qui s'appelle « Électricité à la merci du marché ».
Je crois qu'ils écoutent pas.
Sûr, on les a perdus.
Oh, t'écoutes ou quoi?
On est là. Viens.
Ouh, oh, t'écoutes ou quoi?
On est là. Viens. C'est bien.
Et pour finir, l'agenda de la semaine, centré sur les événements organisés pour les 60 ans du 17 octobre 1961. Demain, samedi 16 octobre 2021, à 14h, le collectif du 17 octobre 1961 Marseille propose un atelier d'éducation populaire intitulé « Porteurs de parole ». C'est un atelier de recueil de récits, de mémoire des Marseillaises autour du 17 octobre 1961. Il aura lieu devant la bibliothèque L'Alcazar, 58 cours Belzunce à Marseille. Encore demain, samedi 16 octobre, à 16h aura lieu la projection du film Un seul héros, Le Peuple, suivi d'une discussion avec le réalisateur et sociologue Mathieu Rigouste et l'historien Dao Djerbal. Un seul héros, Le Peuple, raconte l'histoire d'un soulèvement populaire victorieux. En 1960, face à une répression militarisée, les classes populaires algériennes, avec parfois en première ligne des femmes et des enfants, surgissent depuis les bidonvilles et les quartiers ségrégés. Elles et ils mettent en échec la contre-insurrection et bouleversent l'ordre colonial. Voici aussi l'histoire de corps opprimés qui se libèrent par eux-mêmes et en dansant. Ce film est le fruit de 7 années de recherches indépendantes et il a été réalisé et produit en autofinancement. Mathieu Rigouste est sociologue et essayiste, chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur et militant. Dao Djerbal est maître de conférences en histoire contemporaine au département d'histoire à l'université d'Alger 2 et directeur de la revue NACD. Après une dizaine d'années de travaux en histoire économique et sociale, Dao Djerbal s'oriente vers le recueil des témoignages d'acteurs de la lutte de libération nationale en Algérie et s'intéresse à la relation entre histoire et mémoire. Ça se passe à la bibliothèque municipale L'Alcazar, 58 cours Belzunce à Marseille, demain, samedi, à 16h. Et c'est organisé par le Centre de ressources sur les migrations de l'association ACT, Approches, cultures et territoires. Vous pouvez retrouver les infos sur le site approches.fr. Ce dimanche 17 octobre à 14h sur le Vieux-Port, un rassemblement est organisé à l'occasion des 60 ans du 17 octobre 1961, à l'appel du collectif marseillais du 17 octobre 1961. Le massacre des manifestants algériens désarmés du 17 octobre 1961, longtemps occulté de l'histoire nationale et dont la connaissance n'a commencé à émerger que dans les années 1980, est commémoré en 2021, 60 ans après, par un nombre croissant de rassemblements et d'initiatives diverses. À Marseille, à travers ce rassemblement, nous souhaitons que ce crime colonial du 17 octobre 1961 soit connu et reconnu par les Marseillaises et exigeons la nomination d'une rue ou d'une place dans la deuxième ville de France, où de nombreux héritiers de l'immigration postcoloniale vivent et luttent pour des conditions de vie plus dignes depuis des décennies. Nous attendons une pleine reconnaissance des pouvoirs publics d'une histoire invisibilisée qui continue aujourd'hui à fabriquer une altérité qui fragilise notre société. C'est donc ce dimanche à 14h au Vieux-Port. Ce jeudi 21 octobre à 18h30 au Théâtre de l'Œuvre, 1 rue Mission de France dans le 1er à Marseille, auront lieu les 9e rencontres de l'hébergement solidaire du réseau Hospitalité. Il s'agira de réfléchir sur les conditions d'hébergement et d'accompagnement des personnes exilées à Marseille et à la façon de développer l'hébergement solidaire. Personnes individuelles, propriétaires, commodas, agences, colocations, etc. En effet, aujourd'hui, les besoins sont beaucoup plus importants que les offres. Chaque jour arrivent de nombreuses demandes d'hébergement, notamment de familles avec des enfants en bas âge et des mineurs isolés. De fait, à Marseille, entre 12 à 15 000 personnes vivent dans la rue chaque année, à un moment ou à un autre, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence ou provisoire ne compte que 6 000 places et que les délais pour y accéder sont très longs. Ainsi, plusieurs milliers de personnes et familles dorment chaque jour dans la rue. La rencontre du 21 octobre permettra de trouver des solutions pratiques ainsi que des pistes de recherche pour augmenter les possibilités d'hébergement à offrir à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Cette rencontre est ouverte à tout public intéressé. Le pass sanitaire y sera demandé. Et c'est la semaine prochaine, enfin ce sera après les infos de la semaine prochaine, mais on vous en parle déjà, le samedi 23 octobre à 17h30 aura lieu la projection du film Les balles du 14 juillet 1953, suivi d'une discussion en présence du réalisateur Daniel Kupferstein. C'est un film sur une histoire vraiment méconnue. Cette projection aura lieu au cinéma L'Alhambra, dans le 16e à Marseille. Elle est proposée par le collectif Mémoires en Marche. Un petit résumé vite fait du film. Le 14 juillet 1953, au moment de la dislocation d'une manifestation en l'honneur de la Révolution française, la police parisienne charge un cortège de nationalistes algériens. Ce jour-là, 7 personnes, 6 Algériens et un Français, sont tuées, et une centaine de manifestants blessés, dont plus de 40 par balle. Un vrai massacre. Cette histoire est quasiment inconnue en France comme en Algérie. Ce film est l'histoire d'une longue enquête contre l'amnésie. Enquête au jour le jour, pour retrouver des témoins, pour faire parler les historiens, pour reprendre des informations dans les journaux de l'époque, dans les archives et autres centres de documentation afin de reconstituer au mieux le déroulement de ce drame, mais aussi pour comprendre comment ce mensonge d'État a si bien fonctionné. Voilà, c'est fini pour l'agenda. On se quitte en écoutant Intifada d'Aziza Brahim et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, 12h30.
Infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.